John Locke, Traité du gouvernement civil, chapitre 5, de la propriété des choses. 25. Soit que nous considérions la raison naturelle, qui nous dit que les hommes ont droit de se conserver, et conséquemment de manger et de boire, et de faire d'autres choses de cette sorte, selon que la nature les fournit de biens pour leur subsistance, soit que nous consultions la révélation, qui nous apprend ce que Dieu a accordé en ce monde à Adam, à Noé et à ses fils, il est toujours évident que Dieu, dont David dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes, a donné en commun la terre au genre humain. Mais cela étant, il semble qu'il est difficile de concevoir qu'une personne particulière puisse posséder rien en propre. Je ne veux pas me contenter de répondre que s'il est difficile de sauver et d'établir la propriété des biens, supposé que Dieu ait donné en commun la terre à Adam et à sa postérité, il s'ensuivrait qu'aucun homme, excepté un monarque universel, ne pourrait posséder aucun bien en propre. Mais je tâcherai de montrer comment les hommes peuvent posséder en propre diverses partitions de ce que Dieu leur a donné en commun, et peuvent en jouir sans aucun accord formel fait entre tous ceux qui y ont naturellement le même droit. 26. Dieu qui a donné la terre aux hommes en commun, leur a donné pareillement la raison, pour faire de l'un et de l'autre l'usage le plus avantageux à la vie et le plus commode. La terre, avec tout ce qui y est contenu, est donnée aux hommes pour leur subsistance et pour leur satisfaction. Mais, quoique tous les fruits qu'elle produit naturellement, et toutes les bêtes qu'elle nourrit appartiennent en commun au genre humain, en tant que ses fruits sont produits et ces bêtes sont nourries par les soins de la nature seule, et que personne n'a originellement aucun droit particulier sur ces choses-là, considérées précisément dans l'état de nature. Néanmoins, ces choses étant accordées par le maître de la nature pour l'usage des hommes, il faut nécessairement qu'avant qu'une personne particulière puisse en tirer quelque utilité et quelque avantage, elle puisse s'en approprier quelques-unes. Le fruit ou gibier qui nourrit un sauvage des Indes, qui ne reconnaît point de bornes, qui possède les biens de la terre en commun, lui appartient en propre, et il en est si bien le propriétaire qu'aucun autre n'y peut avoir de droit, à moins que ce fruit ou ce gibier ne soit absolument nécessaire pour la conservation de sa vie. 27. Encore que la terre et toutes les créatures inférieures soient communes et appartiennent en général à tous les hommes, chacun pourtant a un droit particulier sur sa propre personne, sur laquelle nul autre ne peut avoir aucune prétention. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous le pouvons dire, sont son bien propre. Tout ce qu'il a tiré de l'état de nature, par sa peine et son industrie, appartient à lui seul. Car cette peine et cette industrie étant sa peine et son industrie propre et seule, personne ne saurait avoir droit sur ce qui a été acquis par cette peine et cette industrie, surtout s'il reste aux autres assez de semblables et d'aussi bonnes choses communes. 28. Un homme qui se nourrit de glands qu'il ramasse sous un chêne, ou de pommes qu'il cueille sur des arbres, dans un bois, se les approprie certainement par là. On ne saurait contester que ce dont il se nourrit en cette occasion ne lui appartienne légitimement. Je demande donc. Quand est-ce que ces choses qu'il mange commencent à lui appartenir en propre? Lorsqu'il les digère ou lorsqu'il les mange, ou lorsqu'il les cuit, ou lorsqu'il les porte chez lui, ou lorsqu'il les cueille? Il est visible qu'il n'y a rien qui puisse les rendre siennes que le soin et la peine qu'il prend de les cueillir et de les amasser. Son travail distingue et sépare alors ses fruits des autres biens qui sont communs. Il y ajoute quelque chose de plus que la nature, la mère commune de tous n'y a mis. Et par ce moyen, ils deviennent son bien particulier. Dira-t-on qu'il n'a point un droit de cette sorte sur ses glands ou sur ses pommes qu'il s'est approprié, à cause qu'il n'a pas là-dessus le consentement de tous les hommes? Dira-t-on que c'est un vol de prendre pour soi et de s'attribuer uniquement ce qui appartient à tous en commun? Si un tel consentement était nécessaire, la personne dont il s'agit aurait pu mourir de faim, nonobstant l'abondance au milieu de laquelle Dieu l'a mise. Nous voyons que dans les communautés qui ont été formées par accord et par traité, ce qui est laissé en commun serait entièrement inutile si on ne pouvait en prendre et s'en approprier quelque partie et par quelque voie. Il est certain qu'en ces circonstances, on n'a point besoin du consentement de tous les membres de la société. Ainsi, l'herbe que mon cheval mange, les mottes de terre que mon valet a arrachées, et les creux que j'ai faits dans des lieux auxquels j'ai un droit commun avec d'autres, deviennent mon bien et mon héritage propre, sans le consentement de qui que ce soit. Le travail qui est mien, mettant ces choses hors de l'état commun où elles étaient, les a fixées et me les a appropriées. 29. S'il était nécessaire d'avoir un consentement express de tous les membres d'une société, afin de pouvoir s'approprier quelque partie de ce qui est donné ou laissé en commun, des enfants ou des valets ne sauraient couper rien pour manger de ce que leur père ou leur maître leur aurait fait servir en commun, sans marquer à aucun sa part particulière et précise. L'eau qui coule d'une fontaine publique appartient à chacun. Mais si une personne en a rempli sa cruche, qui doute que l'eau qui y est contenue n'appartienne à cette personne seule? Sa peine a tiré cette eau, pour ainsi dire, des mains de la nature, entre lesquelles elle était commune et appartenait également à tous ses enfants, et l'a appropriée à la personne qui l'a puisée. 30. Ainsi, cette loi de la raison fait que le cerf qu'un Indien a tué est réputé le bien propre de cet homme qui a employé son travail et son adresse pour acquérir une chose sur laquelle chacun avait auparavant un droit commun. Et parmi les peuples civilisés qui ont fait tant de lois positives pour déterminer la propriété des choses, cette loi originelle de la nature, touchant le commencement du droit particulier que des gens acquièrent sur ce qui auparavant était commun, a toujours eu lieu et a montré sa force et son efficacité. En vertu de cette loi, le poisson qu'un homme prend dans l'océan, ce commun et grand vivier du genre humain, ou l'ambre gris qu'il y pêche, est mis, par son travail, hors de cet état commun où la nature l'avait laissé, et devient son bien propre. Si quelqu'un même parmi nous poursuit à la chasse un lièvre, ce lièvre est censé appartenir durant la chasse à celui seul qui le poursuit. Ce lièvre est bien une de ces bêtes qui sont toujours regardées comme communes et dont personne n'est le propriétaire. Néanmoins, quiconque emploie sa peine et son industrie pour le poursuivre et le prendre, le tire par-delà de l'état de nature dans lequel il était commun et le rend sien. 31. On objectera peut-être que si, en cueillant et amassant des fruits de la terre, un homme acquiert un droit propre et particulier sur ses fruits, il pourra en prendre autant qu'il voudra. Je réponds qu'il ne s'ensuit point qu'il ait droit d'en user de cette manière. Car la même loi de la nature, qui donne à ceux qui cueillent et amassent des fruits communs un droit particulier sur ces fruits-là, renferme en même temps ce droit dans de certaines bornes. Dieu nous a donné toutes choses abondamment. C'est la voie de la raison, confirmée par celle de l'inspiration. Mais à quelle fin ces choses nous ont-elles été données de la sorte par le Seigneur? Afin que nous en jouissions. La raison nous dit que la propriété des biens acquis par le travail doit donc être réglée selon le bon usage qu'on en fait pour l'avantage et les commodités de la vie. Si l'on passe les bornes de la modération et que l'on prenne plus de choses qu'on en a besoin, on prend sans doute ce qui appartient aux autres. Dieu n'a rien fait et créé pour l'homme, qu'on doive laisser, corrompre et rendre inutile. Si nous considérons l'abondance des provisions naturelles qu'il y a depuis longtemps dans le monde, le petit nombre de ceux qui peuvent en user et à qui elles sont destinées, et combien peu une personne peut s'en approprier au préjudice des autres, principalement s'il se tient dans les bornes que la raison a mises aux choses dont il est permis d'user, on reconnaîtra qu'il n'y a guère de sujet de querelles et de disputes à craindre par rapport à la propriété des biens ainsi établis. 32. Mais la principale matière de la propriété n'étant pas à présent les fruits de la terre ou les bêtes qui s'y trouvent, mais la terre elle-même, laquelle contient et fournit tout le reste, je dis que, par rapport aux parties de la terre, il est manifeste qu'on en peut acquérir la propriété en la même manière que nous avons vu qu'on pouvait acquérir la propriété de certains fruits. Autant d'arpents de terre qu'un homme peut labourer, semer, cultiver, et dont il peut consommer les fruits pour son entretien, autant lui en appartient-il en propre. Par son travail, il rend ce bien-là son bien particulier et le distingue de ce qui est commun à tous. Et il ne sert de rien d'alléguer que chacun y a autant de droits que lui, et que par cette raison, il ne peut se l'approprier, il ne peut l'entourer d'une clôture et le fermer dans certaines bornes, sans le consentement de tous les autres, lesquels ont part, comme lui, à la même terre commune. Car, lorsque Dieu a donné en commun la terre au genre humain, il a commandé en même temps à l'homme de travailler, et les besoins de sa condition requièrent assez qu'il travaille. Le Créateur et la raison lui ordonnent de labourer la terre, de la semer, d'y planter des arbres et d'autres choses, de la cultiver pour l'avantage, la conservation et les commodités de la vie, et lui apprennent que cette portion de la terre dont il prend soin devient par son travail son héritage particulier. Tellement que celui qui, conformément à cela, a labouré, semé, cultivé un certain nombre d'arpents de terre, a véritablement acquis par ce moyen un droit de propriété sur ces arpents de terre, auquel nul autre ne peut rien prétendre, et qu'il ne peut lui ôter sans injustice. 33. D'ailleurs, en s'appropriant un certain coin de terre par son travail et par son adresse, on ne fait tort à personne, puisqu'il en reste toujours assez et d'aussi bonne, et même plus qu'il n'en faut à un homme qui ne se trouve pas pourvu. Un homme a beau en prendre pour son usage et sa subsistance, il n'en reste pas moins pour tous les autres. Et quand d'une chose on en laisse beaucoup plus qu'on en ont besoin les autres, il leur doit être fort indifférent qu'on s'en soit pourvu ou qu'on ne l'ait pas fait. Qui, je vous prie, s'imaginera qu'un autre lui fait tort en buvant, même à grands traits, de l'eau d'une grande et belle rivière qui, subsistant toujours tout entière, contient et présente infiniment plus d'eau qu'il ne lui en faut pour étancher sa soif. Or, le cas est ici le même, et ce qui est vrai à l'égard de l'eau d'un fleuve l'est aussi à l'égard de la terre. 34. Dieu a donné la terre aux hommes en commun, mais puisqu'il la leur a aussi donnée pour les plus grands avantages et pour les plus grandes commodités de la vie qu'ils puissent en retirer, on ne saurait supposer et croire qu'il entend que la terre demeure toujours commune et sans culture. Il l'a donnée pour l'usage des hommes industrieux, laborieux, raisonnables, non pour être l'objet et la matière de la fantaisie ou de l'avarice des querelleurs, des chicaneurs. Celui à qui on a laissé autant de bonnes terres qu'il en peut cultiver, et qu'il s'en est déjà approprié, n'a nul sujet de se plaindre, et il ne doit point troubler un autre dans une possession qu'il cultive à la sueur de son visage. S'il le fait, il est manifeste qu'il convoite et usurpe un bien qui est entièrement dû aux peines et au travail d'autrui, et auquel il n'a nul droit, surtout puisque ce qui reste sans possesseur et propriétaire est aussi bon que ce qui est déjà approprié, et qu'il en a à sa disposition beaucoup plus qu'il ne lui est nécessaire et au-delà de ce dont il peut prendre soin. 35. Il est vrai que, pour ce qui regarde une terre qui est commune en Angleterre ou en quelque autre pays, où il y a quantité de gens, sous un même gouvernement, parmi lesquels l'argent roule et le commerce fleurit, personne ne peut s'en approprier et fermer de bornes aucune portion sans le consentement de tous les membres de la société. La raison en est que cette sorte de terre est laissée commune par accord, c'est-à-dire par les lois du pays, lesquelles on est obligé d'observer. Cependant, bien que cette terre-là soit commune par rapport à quelques hommes qui forment un certain corps de société, il n'en est pas de même à l'égard de tout le genre humain. Cette terre doit être considérée comme une propriété de ce pays ou de cette paroisse où une certaine convention a été faite. Au reste, on peut ajouter à la raison, tirée des lois du pays, cette autre qui est d'un grand poids, savoir que si on venait à fermer de certaines bornes et à s'approprier quelques portions de la terre commune que nous supposons, ce qui en resterait ne serait pas aussi utile et aussi avantageux aux membres de la communauté que lorsqu'elle était tout entière. Et en cela, la chose est tout autrement aujourd'hui qu'elle ne l'était au commencement du monde, lorsqu'il s'agissait de peupler la terre, qui était donnée en commun au genre humain. Les lois sous lesquelles les hommes vivaient alors, bien loin de les empêcher de s'approprier quelques portions de terre, les obligeait fortement à s'en approprier quelqu'une. Dieu leur commandait de travailler, et leurs besoins les y contraignaient assez, de sorte que ce en quoi ils employaient leurs soins et leurs peines devenait sans difficulté leur bien propre. Et on ne pouvait sans injustice les chasser d'un lieu où ils avaient fixé leur demeure et leurs possessions, et dont ils étaient les maîtres, les propriétaires, de droit divin. Car enfin, nous voyons que labourer, que cultiver la terre, et avoir domination sur elle, sont deux choses jointes ensemble, l'une donne droit à l'autre. Tellement que le Créateur de l'univers, commandant de labourer et cultiver la terre, a donné pouvoir, en même temps, de s'en approprier autant qu'on en peut cultiver. Et la condition de la vie humaine, qui requiert le travail et une certaine manière sur laquelle on puisse agir, introduit nécessairement les possessions privées. 36. La mesure de la propriété a été très bien réglée par la nature, selon l'étendue du travail des hommes et selon la commodité de la vie. Le travail d'un homme ne peut être employé par rapport à tout. Il ne peut s'approprier tout, et l'usage qu'il peut faire de certains fonds ne peut s'étendre que sur peu de choses. Ainsi, il est impossible que personne par cette voie empiète sur les droits d'autrui ou acquière quelque propriété qui préjudicie à son prochain, lequel trouvera toujours assez de place et de possession, aussi bonne et aussi grande que celle dont un autre se sera pourvu, et que celle dont il aurait pu se pourvoir auparavant lui-même. Or, cette mesure met, comme on voit, des bornes au bien de chacun, et oblige à garder de la proportion et user de modération et de retenue, en sorte qu'en s'appropriant quelque bien, on ne fasse tort à qui que ce soit. Et dans le commencement du monde, il y avait si peu à craindre que la propriété des biens nuisît à quelqu'un, qu'il y avait bien plus de danger que les hommes périssent en s'éloignant les uns des autres et s'égarant dans le vaste désert de la terre, qu'il n'y en avait qu'ils ne se trouvassent à l'étroit, faute de place et de lieux qu'ils puissent cultiver et rendre propres. Il est certain aussi que la même mesure peut toujours être en usage sans que personne en reçoive du préjudice. Car supposons qu'un homme ou une famille, dans l'état où l'on était au commencement, lorsque les enfants d'Adam et de Noé peuplaient la terre, soit allé dans l'Amérique, toute vide et destituée d'habitants. Nous trouverons que les possessions que cet homme ou cette famille aura pu acquérir et cultiver, conformément à la mesure que nous avons établie, ne seront pas d'une fort grande étendue, et qu'en ce temps-ci même, elles ne pouvaient nuire au reste des hommes, ou leur donner sujet de se plaindre et de se croire offensés et incommodés par les démarches d'un tel homme ou d'une telle famille. Quoique la race du genre humain, ayant extrêmement multiplié, se soit répandue par toute la terre et excède infiniment en nombre les habitants du premier âge du monde. Et l'étendue d'une possession est de si peu de valeur sans le travail que j'ai entendu assurer qu'en Espagne même, un homme avait permission de labourer, semer et moissonner dans des terres sur lesquelles il n'avait d'autre droit que le présent et réel usage qu'il faisait de ces sortes de fonds. Bien loin même que les propriétaires trouvent mauvais le procédé d'un tel homme. Il croit, au contraire, lui être fort obligé à cause que, par son industrie et ses soins, des terres négligées et désertes ont produit une certaine quantité de blé dont on manquait. Quoi qu'il en soit, car je ne garantis pas la chose, j'ose hardiment soutenir que la même mesure et la même règle de propriété, savoir que chacun doit posséder autant de biens qu'il lui en faut pour sa subsistance, peut avoir lieu aujourd'hui et pourra toujours avoir lieu dans le monde. sans que personne en soit incommodé et mis à l'étroit, puisque il y a assez de terre pour autant encore d'habitants qu'il y en a. Quand même, l'usage de l'argent n'aurait pas été inventé. Or, quant à l'accord qu'ont fait les hommes au sujet de la valeur de l'argent monnayé, dont ils se servent pour acheter de grandes et vastes possessions, et en être les seuls maîtres, je ferai voir, si après, comment cela s'est fait et sur quel fondement, et je m'étendrai sur cette matière autant qu'il sera nécessaire pour l'éclaircir. 37. Il est certain qu'au commencement, avant que le désir d'avoir plus qu'il n'est nécessaire à l'homme eût altéré la valeur naturelle des choses, laquelle dépendait uniquement de leur utilité par rapport à la vie humaine, ou qu'on fût convenu qu'une petite pièce de métal jaune qu'on peut garder sans craindre qu'il diminue et déchoie balancerait la valeur d'une grande pièce de viande ou d'un grand monceau de blé, il est certain, dis-je, qu'au commencement du monde, encore que les hommes eussent droit de s'approprier par leur travail autant des choses de la nature qu'il leur en fallait pour leur usage et leur entretien, ce n'était pas après tout grand-chose, et personne ne pouvait en être incommodé et en recevoir du dommage, à cause que la même abondance subsistait toujours en son entier en faveur de ceux qui voulaient user de la même industrie et employer le même travail. Avant l'appropriation des terres, celui qui amassait autant de fruits sauvages et tuait, attrapait ou apprivoisait autant de bêtes qu'il lui était possible, mettait, par sa peine, ses productions de la nature hors de l'état de nature et acquérait sur elles un droit de propriété. Mais si ces choses venaient à se gâter et à se corrompre pendant qu'elles étaient en sa possession et qu'il n'en fit pas l'usage auquel elles étaient destinées, si ces fruits qu'il avait cueillis se gâtaient, si ce gibier qu'il avait pris se corrompait avant qu'il pût s'en servir, il violait sans doute les lois communes de la nature et méritait d'être puni parce qu'il usurpait la portion de son prochain à laquelle il n'avait nul droit et qu'il ne pouvait posséder plus de biens qu'il lui en fallait pour la commodité de la vie. 38. La même mesure règle assez des possessions de la terre. Quiconque cultive un fonds, y recueille et moissonne, en ramasse les fruits et s'en sert, avant qu'il se soit pourri et gâté, y a un droit particulier et incontestable. Quiconque aussi a fermé d'une clôture une certaine étendue de terre, afin que le bétail qui y paîtra et les fruits qui en proviendront soit employé à sa nourriture, est le propriétaire légitime de cet endroit-là. Mais si l'herbe de son clos se pourrit sur terre, ou que les fruits de ses plantes et de ses arbres se gâtent, sans qu'il se soit mis en peine de les recueillir et de les amasser, ce fonds, quoique fermé d'une clôture et de certaines bornes, doit être regardé comme une terre en friche et déserte, et peut devenir l'héritage d'un autre. Au commencement, Caïn pouvait prendre tant de terre qu'il en pouvait cultiver, et faire de l'endroit qu'il aurait choisi son bien propre et sa terre particulière, et en même temps en laisser assez à Abel pour son bétail. Peu d'arpents suffisaient à l'un et à l'autre, cependant, comme les familles crurent en nombre, et que l'industrie des hommes s'accrut aussi, leurs possessions furent pareillement plus étendues et plus grandes à proportion de leurs besoins. On n'avait pas coutume pourtant de fixer une propriété à un certain endroit. Cela ne s'est pratiqué qu'après que les hommes eurent composé quelques corps de société particulière et qu'ils eurent bâti des villes. Alors, d'un commun consentement, ils ont distingué leur territoire par de certaines bornes. Et en vertu des lois qu'ils ont faites entre eux, ils ont fixé et assigné à chaque membre de leur société telles ou telles possessions. En effet, nous voyons que, dans cet endroit du monde qui demeura d'abord quelque temps inhabité et qui vraisemblablement était commode, les hommes du temps d'Abraham allaient librement çà et là, de tous côtés, avec leur bétail et leurs troupeaux, qui étaient leur richesse. Et il est à remarquer qu'Abraham en usa de la sorte dans une contrée où il était étranger. De là, il s'ensuit même bien clairement que, du moins, une grande partie de la terre était commune et que les habitants du monde ne s'appropriaient pas plus de possessions qu'il leur en fallait pour leur usage et leur subsistance. Que si, dans un même lieu, il n'y avait pas assez de place pour nourrir et faire paître ensemble leurs troupeaux, alors, par un accord entre eux, ils se sépareraient, ainsi que firent Abraham et Lot, et étendaient leur pâturage partout où il leur plaisait. Et c'est pour cela aussi qu'Ésaü abandonna son père et son frère et établit sa demeure en la montagne de Séir. 39. Ainsi, sans supposer en Adam aucune domination particulière ou aucune propriété sur tout le monde, exclusivement à tous les autres hommes, puisque l'on ne saurait prouver une telle domination et une telle propriété, ni fonder sur elle la propriété et la prérogative d'aucun autre homme, il faut supposer que la terre a été donnée aux enfants des hommes en commun. Et nous voyons, d'une manière bien claire et bien distincte, par tout ce qui a été posé, comment le travail rend propre et affecté, à quelques-uns d'entre eux, certaines parties, et les consacre légitimement à leur usage. En sorte que le droit que ces gens-là ont sur ces biens déterminés ne peut être mis en contestation, ni être un sujet de dispute. 40. Il ne paraît pas, je m'assure, aci étrange que ci-devant, de dire que la propriété, fondée sur le travail, est capable de balancer la communauté de la terre. Certainement, c'est le travail qui met différents prix aux choses. Qu'on fasse réflexion à la différence qui se trouve entre un arpent de terre où l'on a planté du tabac ou du sucre, ou semé du blé ou de l'orge, et un arpent de la même terre qui est laissé commun, sans propriétaire qui en ait soin. Et l'on sera convaincu entièrement que les effets du travail font la plus grande partie de la valeur de ce qui provient des terres. Je pense que la supputation sera bien modeste si je dis que des productions d'une terre cultivée, 9/10 sont les effets du travail. Je dirais plus. Si nous voulions priser au juste les choses, conformément à l'utilité que nous en retirons, compter toutes les dépenses que nous faisons à leur égard, considérer ce qui appartient purement à la nature et ce qui appartient précisément au travail, nous verrions, dans la plupart des revenus, que 79 centimes doivent être attribués au travail. Il ne peut y avoir de plus évidente démonstration sur ce sujet que celle que nous présentent les divers peuples de l'Amérique. Les Américains sont très riches en terres, mais très pauvres en commodités de la vie. La nature leur a fourni aussi libéralement qu'à aucun autre peuple la matière d'une grande abondance, c'est-à-dire qu'elle les a pourvus d'un terroir fertile et capable de produire abondamment tout ce qui peut être nécessaire pour la nourriture, pour le vêtement et pour le plaisir. Cependant, faute de travail et de soins, ils n'en retirent pas la centième partie des commodités que nous retirons de nos terres. Et un roi en Amérique, qui possède de très amples et très fertiles districts, est plus mal nourri et plus mal vêtu que n'est en Angleterre et ailleurs un ouvrier à la journée. 49. Pour rendre tout ceci encore plus clair et plus palpable, entrons un peu dans le détail et considérons les provisions ordinaires de la vie, ce qui leur arrive avant qu'elles ne puissent être utiles. Certainement, nous trouverons qu'elles reçoivent de l'industrie humaine leur plus grande utilité et leur plus grande valeur. Le pain, le vin, le drap, la toile sont des choses d'un usage ordinaire et dont il y a une grande abondance. À la vérité, le gland, l'eau, les feuilles, les peaux nous peuvent servir d'aliments, de breuvages et de vêtements. Mais le travail nous procure des choses beaucoup plus commodes et plus utiles. Car le pain, qui est bien plus agréable que le gland, le vin que l'eau, le drap et la soie plus utiles que les feuilles, les peaux et la mousse, sont des productions du travail et de l'industrie des hommes. De ces provisions, dont les unes nous sont données pour notre nourriture et notre vêtement par la seule nature, et les autres nous sont préparées par notre industrie et par nos peines, qu'on examine combien les unes surpassent les autres en valeur et en utilité. Et alors, on sera persuadé que celles qui sont dues au travail sont bien plus utiles et plus estimables, et que la matière que fournit un fonds n'est rien en comparaison de ce qu'on en retire pour une diligente culture. Aussi, parmi nous-mêmes, une terre qui est abandonnée, où l'on ne sème et ne plante rien, qu'on a remise, pour parler de la sorte, entre les mains de la nature, est appelé, et avec raison, un désert, et ce qu'on en peut retirer monte à bien peu de choses. 43. Un arpent de terre qui porte ici 30 boisseaux de blé, et un autre, dans l'Amérique, qui, avec la même culture, serait capable de porter la même chose, sont sans doute d'une même qualité et ont dans le fond la même valeur. Cependant, le profit qu'on reçoit de l'un en l'espace d'une année vaut 5 livres, et ce qu'on reçoit de l'autre ne vaut peut-être pas un sol. Si tout le profit qu'un Indien en retire était bien pesé, par rapport à la manière dont les choses sont prisées et se vendent parmi nous, je puis dire véritablement qu'il y aurait la différence d'un centième. C'est donc le travail qui donne à une terre sa plus grande valeur, et sans quoi elle ne vaudrait d'ordinaire que fort peu. C'est au travail que nous devons attribuer la plus grande partie de ses productions utiles et abondantes. La paille, le son, le pain, qui proviennent de cet arpent de blé, qui vaut plus qu'un autre d'aussi bonne terre mais laissé inculte, sont des effets et des productions du travail. En effet, ce n'est pas seulement la peine d'un laboureur la fatigue d'un moissonneur ou de celui qui bat le blé, et la sueur d'un boulanger, qui doivent être regardés comme ce qui produit enfin le pain que nous mangeons. Il faut compter encore le travail de ceux qui creusent la terre et cherchent dans ses entrailles le fer et les pierres, de ceux qui mettent en œuvre ces pierres et ce fer, de ceux qui abattent des arbres pour en tirer le bois nécessaire aux charpentiers, des faiseurs de charrues, de ceux qui construisent des moulins et des fours, de plusieurs autres dont l'industrie et les peines sont nécessaires par rapport au pain. Or, tout cela doit être mis sur le compte du travail. La nature et la terre fournissent presque les moins utiles matériaux, considérés en eux-mêmes. Et l'on pourrait faire un prodigieux catalogue des choses que les hommes ont inventées et dont ils se servent pour un pain. Par exemple, avant qu'ils soient en état d'être mangés, ou pour la construction d'un vaisseau qui apporte de tous côtés tant de choses si commodes et si utiles à la vie. Je serais infini, sans doute, si je voulais rapporter tout ce qui a été inventé, tout ce qui se fabrique, tout ce qui se fait par rapport à un seul pain ou à un seul vaisseau. 44. Tout cela montre évidemment que bien que la nature ait donné toutes choses en commun, l'homme néanmoins étant le maître et le propriétaire de sa propre personne, de toutes ses actions, de tout son travail, a toujours en soi le grand fondement de la propriété, et que tout ce en quoi il emploie ses soins et son industrie pour le soutien de son être et pour son plaisir, surtout depuis que tant de belles découvertes ont été faites et que tant d'arts ont été mis en usage et perfectionnés pour la commodité de la vie, lui appartient entièrement en propre et n'appartient point aux autres en commun. 45. Ainsi, le travail, dans le commencement, a donné droit de propriété partout même où il plaisait à quelqu'un de l'employer, c'est-à-dire dans tous les lieux communs de la terre. D'autant plus qu'il en restait ensuite et en est resté pendant si longtemps la plus grande partie, et infiniment plus que les hommes n'en pouvaient souhaiter pour leur usage. D'abord, les hommes, la plupart du moins, se contentèrent de ce que la pure et seule nature fournissait pour leurs besoins. Dans la suite, quoiqu'en certains endroits du monde qui furent fort peuplés et où l'usage de l'argent monnayé commença à avoir lieu, la terre fut devenue rare et par conséquent d'une plus grande valeur, les sociétés ne laissèrent pas de distinguer leur territoire par des bornes qu'elles plantèrent et de faire des lois pour régler les propriétés de chaque membre de la société. Et ainsi, par accord et par convention, fut établie la propriété que le travail et l'industrie avaient déjà commencé d'établir. De plus, les alliances et les traités qui ont été faits entre divers États et divers royaumes qui ont renoncé, soit expressément, soit tacitement, aux droits qu'ils avaient auparavant sur les possessions des autres, ont, par le consentement commun de ces royaumes et de ces États, aboli toutes les prétentions qui subsistaient et qu'on avait auparavant, au droit commun, que tous les hommes avaient naturellement et originellement sur les pays dont il s'agit. Et ainsi, par un accord positif, ils ont réglé et établi entre eux leurs propriétés en des pays différents et séparés. Pour ce qui est de ces grands espaces de terre, dont les habitants ne sont pas joints aux États et aux peuples dont je viens de parler, et n'ont pas consenti à l'usage de leur argent commun, qui sont déserts et mal peuplés, et où il y a beaucoup plus de terroirs qu'il n'en faut à ceux qui y habitent, ils demeurent toujours communs. Du reste, ce cas se voit rarement dans ces parties de la terre, où les hommes ont établi entre eux, d'un commun consentement, l'usage et le cours de l'argent monnayé. 46. La plupart des choses qui sont véritablement utiles à la vie de l'homme, et si nécessaires pour la subsistance que les premiers hommes y ont eu d'abord recours, à peu près comme font aujourd'hui les Américains, sont généralement de peu de durée. Et si elles ne sont pas consommées dans un certain temps, par l'usage auquel elles sont destinées, elles diminuent et se corrompent bientôt d'elles-mêmes. L'or, l'argent, les diamants sont des choses sur lesquelles la fantaisie ou le consentement des hommes, plutôt qu'un usage réel et la nécessité de soutenir et conserver sa vie, a mis de la valeur. Or, pour ce qui regarde celle dont la nature nous pourvoit en commun pour notre subsistance, chacun y a droit ainsi qu'il a été dit, sur une aussi grande quantité qu'il en peut consommer pour son usage et pour ses besoins. Et il acquiert une propriété légitime au regard de tout ce qui est un effet et une production de son travail. Tout ce à quoi il applique ses soins et son industrie pour le tirer hors de l'état où la nature l'a mis devient sans difficulté son bien propre. En ce cas, un homme qui amasse ou cueille 100 boisseaux de glands ou de pommes a, par cette action, un droit de propriété sur ces fruits-là, aussitôt qu'il les a cueillis et amassés. Ce à quoi simplement il est obligé, c'est de prendre garde de s'en servir avant qu'elle se corrompe et se gâte, car autrement, ce serait une marque certaine qu'il en aurait pris plus que sa part et qu'il aurait dérobé celle d'un autre. Et certes, ce serait une grande folie, aussi bien qu'une grande malhonnêteté, de ramasser plus de fruits qu'on en a besoin et qu'on en peut manger. Que si cet homme dont nous parlons a pris, à la vérité, plus de fruits et de provisions qu'il n'en fallait pour lui seul, mais qu'il en ait donné une partie à quelque autre personne, en sorte que cette partie ne soit pas pourrie, mais ait été employée à l'usage ordinaire, on doit alors le considérer comme ayant fait de tout un légitime usage. Aussi, s'il troque des prunes, par exemple, qui ne manqueraient point de se pourrir en une semaine, avec des noix qui sont capables de se conserver et seront propres pour sa nourriture durant toute une année, il ne fait nul tort à qui que ce soit. Et tandis que rien ne périt et ne se corrompt entre ses mains, faute d'être employé à l'usage et aux nécessités ordinaires, il ne doit point être regardé comme désolant l'héritage commun, pervertissant le bien d'autrui, prenant avec la sienne la portion d'un autre. D'ailleurs, s'il veut donner ses noix pour une pièce de métal qui lui plaît, ou échanger sa brebis pour des coquilles, ou sa laine pour des pierres brillantes, pour un diamant, il n'envahit point le droit d'autrui. Il peut ramasser autant qu'il veut de ces sortes de choses durables. L'excès d'une propriété ne consistant point dans l'étendue d'une possession, mais dans la pourriture et dans l'inutilité des fruits qui en proviennent. 47. Or, nous voilà parvenus à l'usage de l'argent monnayé, c'est-à-dire à une chose durable, que l'on peut garder longtemps sans craindre qu'elle se gâte et se pourrisse, qui a été établie par le consentement mutuel des hommes, et que l'on peut échanger pour d'autres choses nécessaires et utiles à la vie, mais qui se corrompent en peu de temps. 48. Et comme les différents degrés d'industrie donnent aux hommes, à proportion, la propriété de différentes possessions, aussi l'invention de l'argent monnayé leur a fourni l'occasion de pousser plus loin, d'étendre davantage leurs héritages et leurs biens particuliers. Car supposons une île qui ne puisse entretenir aucune correspondance et aucun commerce avec le reste du monde, dans laquelle se trouvent seulement une centaine de familles, où il y ait des moutons, des chevaux, des bœufs, des vaches, d'autres animaux utiles, des fruits sains, du blé, d'autres choses capables de nourrir 100 000 fois autant de personnes qu'il y en a dans l'île. Mais que, soit parce que tout y est commun, soit parce que tout y est sujet à la pourriture, il n'y a rien qui puisse tenir lieu d'argent, quelle raison peut obliger une personne d'étendre sa possession au-delà des besoins de sa famille et de l'abondance dont il peut jouir, soit en se servant de ce qui est dans une production précise de son travail, ou en troquant quelqu'une de ses productions utiles et commodes mais périssables pour d'autres à peu près de la même nature. Où il n'y a point de choses durables, rares et d'un prix assez considérable, pour devoir être regardé longtemps, on n'a que faire d'étendre fort ses possessions et ses terres, puisqu'on en peut toujours prendre autant que la nécessité le requiert. Car enfin, je demande, si un homme occupait 10 000 ou 100 000 arpents de terre très bien cultivés et bien pourvus et remplis de bétail au milieu de l'Amérique, où il n'aurait nulle espérance de commerce avec les autres parties du monde pour en attirer de l'argent par la vente de ses revenus et des productions de ses terres. Toute cette grande étendue de terre vaudrait-elle la peine d'être fermée de certaines bornes, d'être appropriée? Il est manifeste que le bon sens voudrait que cet homme laissât dans l'état commun de la nature tout ce qui ne serait point nécessaire pour le soutien et les commodités de la vie, de lui et de sa famille. 49. Au commencement, tout le monde était comme une Amérique, et même beaucoup plus dans l'état que je viens de supposer que n'est aujourd'hui cette partie de la terre nouvellement découverte. Car alors, on ne savait nulle part ce que c'était qu'argent monnayé. Et il est à remarquer que dès qu'on eut trouvé quelque chose qui tenait auprès des autres la place de l'argent d'aujourd'hui, les hommes commencèrent à étendre et à agrandir leurs possessions. 50. Mais depuis que l'or et l'argent, qui naturellement sont si peu utiles à la vie de l'homme par rapport à la nourriture, aux vêtements et à d'autres nécessités semblables, ont reçu un certain prix et une certaine valeur du consentement des hommes, quoique, après tout, le travail contribue beaucoup à cet égard, il est clair, par une conséquence nécessaire, que le même consentement a permis les possessions inégales et disproportionnées. Car dans les gouvernements où les lois règlent tout, lorsqu'on y a proposé et approuvé un moyen de posséder justement, et sans que personne puisse se plaindre qu'on lui fait tort, plus de choses qu'on en peut consommer pour sa subsistance propre, et que ce moyen c'est l'or et l'argent, lesquels peuvent demeurer éternellement entre les mains d'un homme, sans que ce qu'il en a, au-delà de ce qui lui est nécessaire, soit en danger de se pourrir et de déchoir. Le consentement mutuel et unanime rend juste les démarches d'une personne qui, avec des espèces d'argent, agrandit, étend, augmente ses possessions autant qu'il lui plaît. 51. Je pense donc qu'il est facile à présent de concevoir comment le travail a pu donner, dans le commencement du monde, un droit de propriété sur les choses communes de la nature, et comment l'usage que les nécessités de la vie obligeaient d'en faire réglait et limitait ce droit-là. En sorte qu'alors, il ne pouvait y avoir aucun sujet de dispute par rapport aux possessions. Le droit et la commodité allaient toujours de pair, car un homme qui a droit sur tout ce en quoi il peut employer son travail, n'a guère envie de travailler plus qu'il ne lui est nécessaire pour son entretien. Ainsi, il ne pouvait y avoir de sujet de dispute touchant les prétentions et les propriétés d'autrui, ni d'occasion d'envahir et d'usurper le droit et le bien des autres. Chacun voyait d'abord à peu près quelle portion de terre lui était nécessaire, et il aurait été aussi inutile que malhonnête de s'approprier et d'amasser plus de choses qu'on en avait besoin.